Bonjour Gabriella Zalapi.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes italienne de naissance, vous vivez en France, mais votre vie est aussi irriguée d'expériences britanniques, suisses et autant de langues, j'imagine. À ce titre, vous êtes d'ailleurs l'une des invitées de la scène européenne à Livre Paris. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste européen selon vous?
C'est un artiste qui ne se définit peut-être pas par sa nationalité, plutôt peut-être un houmous variable avec des langues en puisant dans les imaginaires de langues diverses, de paysages, de mentalités.
Et à ce titre, vous vous sentez européenne?
Oui, en tout cas, je me sens pas d'une nationalité en particulier. Je ne sais pas européenne, mais en tout cas, je dirais plutôt Luftmensch.
Qui veut dire quoi?
Luftmensch, c'est ces personnes qui marchent sur les nuages, plutôt.
Et de fait, j'ai envie de dire un peu comme vous, Gabriella Zalapi, le personnage principal de votre premier roman, au titre éponyme, Antonia. Elle est aussi baignée de nombreuses sources européennes, anglaise par son père, autrichienne par sa mère, sicilienne par son éducation et par son mariage. Et pourtant, on a l'impression qu'elle ne se sent appartenir à aucun monde vraiment et qu'elle est en quête de sa véritable identité. Qui est Antonia?
Antonia, c'est une femme qui, en effet, sait pas très bien d'où elle vient. Mais peu importe. Pendant ces 2 années, 1965-66, elle est une femme de, elle est mère de, et elle se sent plutôt un objet de décoration sur une étagère. C'est une personne un peu perdue, malheureuse, plutôt malheureuse.
Alors vous disiez qu'elle ne se sent pas forcément d'une nationalité ou d'une autre, et en effet, il y a la question de la langue qui est inhérente à l'identité qu'elle soulève. Nous sommes page 47, parlant de son fils, voilà ce qu'elle dit. Je lui parle en italien, mais ce n'est pas ma langue, entre parenthèses, quelle est ma langue, point d'interrogation. Je lui dis good night, il me répond parle italien, ici on parle italien. Je me sens une étrangère avec lui, c'est comme si Arturo était né dans mon dos. Suis-je une mauvaise mère? Et un peu plus loin, j'ai aidé Arturo avec ses devoirs d'allemand. En m'entendant prononcer Die Schule, j'ai réalisé que je n'ai plus parlé cette langue à partir du jour où Nonna est venue me chercher à Kitzbühel. Donc c'est une femme qui aussi cherche sa langue. Vous, vous avez trouvé votre langue d'expression. Pourquoi est-ce que vous écrivez en français, Gabriella Zalapi?
Parce que c'est la langue avec laquelle j'ai fait mes études, c'est la langue dans laquelle je m'exprime le plus souvent, le plus quotidiennement. C'est la langue dans laquelle j'ai appris à me structurer.
Et en même temps, ce livre se déroule bien dans un espace italien. Nous sommes à Palerme, en Sicile, donc c'est vraiment la terre où vous avez prononcé vos premiers mots. Et parler d'un sujet italien dans une langue étrangère, est-ce que c'était parce qu'il fallait aussi mettre de la distance?
Oui, peut-être. Mais par ailleurs, la Sicile est une terre extrêmement bâtarde, entre guillemets, et avec tout ce que ce mot peut avoir de royal, puisqu'elle a été arabe, espagnole, normande, italienne. C'est aussi une île dont le dialecte comporte beaucoup de mots d'origine arabe, française.
Donc, qui permet cette liberté aussi.
Oui, je pense.
En tout cas, jamais il ne vous est venu à l'esprit d'écrire ce livre en italien.
Non.
Donc, Antonia traverse l'espace et le temps, pour nous lecteurs, un peu comme un éclair, comme une trouée dans le ciel, le temps de ces quelques mois, donc entre 1965 et 1966, à Palerme, à travers son journal intime. Elle a 29 ans. Mère d'un petit garçon, elle est mariée depuis 8 ans à un homme qu'elle n'aime plus. Elle est probablement en dépression et à la faveur d'une malle de famille qu'elle récupère puisque sa grand-mère Nonna est décédée, une malle qui contient beaucoup de souvenirs, elle va se remémorer par bribes son passé. Est-ce que ce livre, Gabriella Zalapi, est aussi né d'une malle de souvenirs?
Oui, disons, absolument, j'ai dû, pour des raisons X, me plonger moi-même dans des documents de famille. Et tout ce processus d'aller fouiller dans le passé, de voir ses répercussions dans mon quotidien, et par ailleurs de croiser sur ma route Antonia,
Comment ça, croiser sur votre route?
de trouver des documents qui concernaient sa vie et ses choix, ce choix qu'elle fait à la fin, un choix assez radical en fait, m'ont beaucoup intriguée et m'ont poussée à vouloir en savoir plus. Et donc c'est un mélange à la fois de choses qui me sont arrivées à moi, c'est-à-dire de devoir vraiment aller fouiller dans le passé pour trouver des documents. Et puis en même temps, c'est la vie de cette femme et les questions qu'elle me posait.
Antonia, pour nous, c'est un être de fiction, et néanmoins, ce livre est articulé aussi avec des images, des photographies anciennes en noir et blanc qui ponctuent le récit. Et à la fin, il y a même un arbre généalogique avec cette mention Antonia 1936, mais aucune date de mort comme les autres membres de sa famille. Est-ce que ça veut dire que Antonia, que nous avons quittée le 3 novembre 1966, est toujours vivante?
Oui.
Est-ce que Antonia a lu ce livre?
Antonia a lu ce livre, absolument.
Et alors?
Oui, assez bouleversée, je crois. Et en même temps, heureuse, je crois.
Et si Antonia se réapproprie sa vie à travers les documents que lui a légués sa grand-mère, est-ce qu'on peut en déduire que vous écrivez ce livre parce que c'est aussi lié à votre grand-mère?
J'ai écrit ce livre parce que je voulais comprendre comment une femme sort de l'enfermement. Et que pour moi, Antonia était un cas absolument très enseignant en la matière. Et en lien avec ma famille, oui. Mais après, voilà.
Donc un enfermement lié à une certaine famille, à une certaine époque, à un certain milieu bourgeois, par exemple, parce qu'ici, on voit bien que elle essaye de s'émanciper et que en 1965-1966, à Palerme, il semblerait que le féminisme ait pris du retard.
Ah oui, très très en retard, c'est sûr. Bon, la loi du divorce n'existait pas encore non plus, donc elle est apparue en Italie en 1970. Donc ces années-là sont les années qui précèdent le divorce. Tous ces éléments sont justes, mais aussi dans un enfermement d'une femme qui, d'une enfant qui n'a pas été aimée non plus. Parce que c'est là son enfermement premier pour moi, avant d'être celui d'une mère de, femme de, bourgeoise ou pas par ailleurs. Enfin, bourgeoise dans ce cas-là, mais dans un contexte sicilien, avec une mentalité donc un peu fermée, mais son premier enfermement, il est international, j'ai envie de dire, atemporel.
Un parcours donc à la fois qui nous montre la révélation d'une femme et la rupture qui va s'ensuivre, puisqu'elle va prendre au pied de la lettre une réplique du film de Fellini, 8 et demi, où un personnage dit: Est-ce que tu serais capable de tout planter là et de recommencer ta vie? De choisir une chose, une seule chose, et d'y rester fidèle? De faire en sorte qu'elle devienne ta raison de vivre? Une chose qui résumerait tout, qui renfermerait tout, parce que ta propre fidélité la rendrait infinie, en serais-tu capable? Fermez les guillemets. Et vous, Gabriella Zalapi, en seriez-vous capable?
Par moments, j'en rêve, bien sûr, mais oui et non, j'ai envie de dire, ça fait partie des fantasmes que de tout planter là, de tout recommencer encore. Mais non, en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette phrase, c'est cette loyauté, en fait, dont il parle, dont Mastroianni parle, enfin, Fellini, Mastroianni parle. C'est cette notion de loyauté, comment, en essayant d'être loyal envers soi-même, envers ce qu'on fait, envers son entourage, on peut pousser les limites et on peut ouvrir un espace de liberté.
Merci beaucoup, Gabriela Zalapi, pour ce très beau portrait de femme, Antonia, journal 1965-1966, qui a paru aux éditions Suisse Zoé.